Mesdames, Messieurs, mes chers amis, c'est de pouvoir qu'il s'agira ici, indirectement, mais obstinément. L'innocence moderne parle du pouvoir comme s'il était un. D'un côté, ceux qui l'ont, de l'autre, ceux qui ne l'ont pas. Nous avons cru que le pouvoir était un objet exemplairement politique. Nous croyons maintenant que c'est aussi un objet idéologique, qu'il se glisse là où on ne l'entend pas du premier coup, dans les institutions, les enseignements, mais en somme qu'il est toujours un. Et pourtant, si le pouvoir était pluriel, comme les démons, mon nom est Légion, pourrait-il dire. Partout, de tous côtés, des chefs, des appareils, massifs ou minuscules, des groupes d'oppression ou de pression. Partout, des voix autorisées, qui s'autorisent à faire entendre le discours de tout pouvoir, le discours de l'arrogance. Nous devinons alors que le pouvoir est présent dans les mécanismes les plus fins de l'échange social, non seulement dans l'État, les classes, les groupes, mais encore dans les modes, les opinions courantes, les spectacles, les jeux, les sports, les informations, les relations familiales et privées, et jusque dans les poussées libératrices qui essayent de le contester. J'appelle discours de pouvoir tout discours qui engendre la faute et partant la culpabilité de qui le reçoit. Certains attendent de nous, intellectuels, que nous nous agitions à toute occasion contre le pouvoir. Mais notre vraie guerre est ailleurs. Elle est contre les pouvoirs. Et ce n'est pas un combat facile. Car, pluriel dans l'espace social, le pouvoir est symétriquement perpétuel dans le temps historique. Chassé, exténué ici, il reparaît là. Il ne dépérit jamais. Faites une révolution pour le détruire, il va aussitôt revivre, rebourgeonner dans le nouvel état des choses. La raison de cette endurance et de cette ambiguïté, c'est que le pouvoir est le parasite d'un organisme transsocial lié à l'histoire entière de l'homme et non pas seulement à son histoire politique et historique. Cet objet en quoi s'inscrit le pouvoir de toute éternité humaine, c'est le langage. Ou pour être plus précis, son expression obligée, la langue. Le langage est une législation, la langue en est le code. Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue, parce que nous oublions que toute langue est un classement et que tout classement est oppressif. Ordo, en latin, veut dire à la fois répartition et commination. Jacobson l'a montré, un idiome se définit moins par ce qu'il permet de dire que par ce qu'il oblige à dire. Dans notre langue française, et ce seront là des exemples extrêmement grossiers, dans notre langue française, je suis astreint, par exemple, à me poser d'abord en sujet avant d'énoncer l'action qui ne sera plus dès lors que mon attribut. Ce que je fais n'est que la conséquence et la consécution de ce que je suis. De la même manière, je suis obligé de toujours choisir, en français, entre le masculin et le féminin. Le neutre ou le complexe me sont interdits. De même encore, je suis obligé de marquer mon rapport à l'autre en recourant soit au « tu », soit au « vous », c'est-à-dire que le suspense affectif ou social m'est refusé. Ainsi, par sa structure même, la langue implique une relation fatale d'aliénation. Parler, et à plus forte raison discourir, ce n'est pas communiquer, comme on le répète trop souvent, c'est assujettir. Toute la langue est une rection généralisée. Je vais citer maintenant un mot de Renan. Le français, mesdames et messieurs, disait-il, puisque c'était dans une conférence, le français ne sera jamais la langue de l'absurde. Ce ne sera jamais non plus une langue réactionnaire. Je ne peux pas imaginer une sérieuse réaction ayant pour organe le français. Eh bien, je dirais qu'à sa manière, Renan était perspicace. Il devinait que la langue n'est pas épuisée par le message qu'elle engendre, qu'elle peut survivre à ce message et faire entendre en lui, dans une résonance souvent terrible, autre chose que ce qu'il dit, surimprimant à la voix consciente, raisonnable du sujet, la voix dominatrice, têtue, implacable de la structure, c'est-à-dire de l'espèce en tant qu'elle parle. L'erreur de Renan était simplement historique, elle n'était pas structurale. Il croyait que la langue française formée, pensait-il, par la raison, obligée à l'expression d'une raison politique, qui, dans son esprit, ne pouvait être que démocratique. Mais la langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Dès qu'elle est proférée, fût-ce dans l'intimité la plus profonde du sujet, la langue entre au service d'un pouvoir. En elle, immanquablement, deux rubriques se dessinent. L'autorité de l'assertion, la grégarité de la répétition. D'une part, la langue est immédiatement assertive. La négation, le doute, la possibilité, la suspension de jugement requièrent des opérateurs particuliers qui sont eux-mêmes repris dans un jeu de masques langagiers. Ce que les linguistes appellent la modalité n'est jamais en quelque sorte que le supplément de la langue, ce par quoi, telle une supplique, j'essaye de fléchir son pouvoir implacable de constatation. D'autre part, les signes dont la langue est faite, les signes n'existent que pour autant qu'ils sont reconnus, c'est-à-dire pour autant qu'ils se répètent. Le signe est suiviste, grégaire. En chaque signe dort ce monstre, un stéréotype. Je ne puis jamais parler qu'en ramassant, en quelque sorte, ce qui traîne dans la langue. Dès lors que j'énonce, ces deux rubriques se rejoignent en moi, je suis à la fois maître et esclave. Je ne me contente pas de répéter ce qui a été dit, de me loger confortablement dans la servitude des signes, je dis, j'affirme, j'assène ce que je répète. Dans la langue, donc, servilité et pouvoir se confondent inéluctablement. Et si l'on appelle liberté, non seulement la puissance de se soustraire au pouvoir, mais aussi et surtout celle de ne soumettre personne, il ne peut donc y avoir de liberté que hors du langage. Malheureusement, le langage humain est sans extérieur. C'est un huis clos. On ne peut en sortir qu'au prix de l'impossible. Par exemple, par la singularité mystique, telle que la décrit Kierkegaard lorsqu'il définit le sacrifice d'Abraham comme un acte inouï, vide de toute parole, même intérieure, dressé contre la généralité, la grégarité, la moralité du langage. Ou encore, par l'amen nietzschéen, qui est comme une secousse jubilatoire donnée à la servilité de la langue, à ce que Deleuze appelle son manteau réactif. Mais à nous, qui ne sommes ni des chevaliers de la foi, ni des surhommes, il ne reste, si je puis dire, qu'à tricher avec la langue, qu'à tricher la langue. Cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique qui permet d'entendre la langue hors pouvoir dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part littérature. J'entends en effet par littérature non un corps ou une suite d'œuvres, ni même un secteur de commerce ou d'enseignement, mais le graphe complexe des traces d'une pratique, la pratique d'écrire. Je vise donc en elle essentiellement le texte, c'est-à-dire le tissu des signifiants qui constitue l'œuvre, parce que le texte est l'affleurement même de la langue et que c'est à l'intérieur de la langue doit être combattue, dévoyée, non par le message dont elle est l'instrument, mais par le jeu des mots dont elle est le théâtre. Je puis donc dire indifféremment, du moins ici, c'est ce que je ferai, littérature, écriture ou texte. Les forces de liberté qui sont dans la littérature, bien entendu, ne dépendent pas de la personne civile, de l'engagement politique de l'écrivain, qui, après tout, n'est qu'un monsieur parmi d'autres, ni même du contenu doctrinal de son œuvre, mais du travail de déplacement qu'il exerce sur la langue. De ce point de vue, Céline est tout aussi important que Hugo et Chateaubriand que Zola. Ce que j'essaye de viser ici, c'est une responsabilité de la forme. Mais cette responsabilité ne peut s'évaluer en termes idéologiques, ce pourquoi, d'ailleurs, les sciences de l'idéologie ont toujours eu si peu de prise sur elles. Ces forces de la littérature, je voudrais en indiquer trois, que je rangerai, si vous le permettez, sous trois concepts grecs, mathésis, mimésis, sémiosis. La littérature prend en effet en charge beaucoup de savoir, pluriel. Dans un roman comme Robinson Crusoe, il y a par exemple un savoir historique, géographique, social, colonial, technique, botanique, anthropologique, puisque Robinson passe de la nature à la culture. Et si, par je ne sais quel excès de socialisme ou de barbarie, toutes nos disciplines devaient être expulsées de l'enseignement, sauf une, c'est la discipline littéraire qui devrait être sauvée, car toutes les sciences sont présentes dans le monument littéraire. C'est en cela que l'on peut dire que la littérature, quelles que soient les écoles dont elle se réclame, est absolument, catégoriquement réaliste. Elle est la réalité, c'est-à-dire la lueur même du réel. Cependant, en cela véritablement encyclopédique, la littérature fait tourner les savoirs, elle n'en fixe, elle n'en fétichise aucun. Elle leur donne une place indirecte, et cet indirect est précieux. D'une part, il permet de désigner des savoirs possibles, insoupçonnés, inaccomplis. La littérature travaille dans les interstices de la science. Elle est toujours en retard ou en avance sur elle, semblable à la pierre de Bologne qui irradie la nuit ce qu'elle a emmagasiné pendant la journée et par cette lueur indirecte illumine le jour nouveau qui vient. La science est grossière, la vie est subtile, et c'est pour corriger cette distance que la littérature nous importe. D'autre part, le savoir qu'elle mobilise n'est jamais ni entier ni dernier. La littérature ne dit pas qu'elle sait quelque chose, mais qu'elle sait de quelque chose, ou mieux, qu'elle en sait quelque chose, qu'elle en sait long sur les hommes. Ce qu'elle connaît des hommes, c'est ce qu'on pourrait appeler le grand gâchis du langage, le grand gâchis du langage qu'il travaille et qu'il les travaille. Soit qu'elle reproduise la diversité des sociolectes, soit qu'à partir de cette diversité, dont elle ressent le déchirement, elle imagine et cherche à élaborer un langage limite qui en serait le degré zéro. Parce qu'elle met en scène le langage au lieu simplement de l'utiliser, elle engraine le savoir dans le rouage de la réflexivité infinie et à travers l'écriture, le savoir réfléchit sans cesse sur le savoir selon un discours qui n'est plus épistémologique mais dramatique. Il est de bon ton, vous le savez aujourd'hui, de contester l'opposition des sciences et des lettres, dans la mesure où des rapports de plus en plus nombreux, soit de modèles, soit de méthodes, relient ces deux régions et en effacent souvent la frontière. Et il est possible que cette opposition apparaisse un jour comme un mythe historique. Mais, du point de vue du langage qui est le nôtre ici, cette opposition me paraît pertinente. Ce qu'elle met en regard n'est d'ailleurs pas forcément le réel et la fantaisie, l'objectivité et la subjectivité, le vrai et le beau, mais seulement des lieux différents de parole. Selon le discours de la science, ou selon un certain discours de la science, le savoir est un énoncé, Dans l'écriture, il est une énonciation. L'énoncé, objet ordinaire de la linguistique, est donné comme le produit d'une absence de l'énonciateur. L'énonciation, elle, en exposant la place et l'énergie du sujet, voire son manque, qui n'est pas son absence, vise le réel même du langage. Elle reconnaît que le langage est un immense halo d'implications, d'effets, de retentissements, de tours, de retours, de redans. Elle assume de faire entendre un sujet à la fois insistant et irrepérable, inconnu et cependant reconnu selon une inquiétante familiarité. Les mots ne sont plus conçus illusoirement comme de simples instruments, mais ils sont lancés comme des projections, des explosions, des vibrations, des machineries, des saveurs. L'écriture fait du savoir une fête. Le paradigme que je propose ici ne suit pas le partage des fonctions. Il ne vise pas à mettre d'un côté les savants, les chercheurs, et de l'autre les écrivains, les essayistes. Il suggère au contraire que l'écriture se retrouve partout où les mots ont de la saveur. Savoir et saveur ont en latin la même étymologie. Kurnonsky disait qu'en cuisine, il faut que les choses aient le goût de ce qu'elles sont. Eh bien, dans l'ordre du savoir, pour que les choses deviennent ce qu'elles sont, ce qu'elles ont été, il y faut cet ingrédient, le sel des mots. C'est ce goût des mots qui fait le savoir profond, fécond. Je sais, par exemple, bien sûr, que beaucoup de propositions de Michelet sont récusées par la science historique. Il n'empêche que Michelet a fondé quelque chose comme l'ethnologie de la France, et que chaque fois qu'un historien déplace le savoir historique au sens le plus large du terme, et quel qu'en soit l'objet, nous trouvons en lui tout simplement une écriture. La seconde force de la littérature, c'est sa force de représentation. Depuis les temps anciens jusqu'aux tentatives de l'avant-garde, la littérature s'affaire à représenter quelque chose. Quoi ? Je dirais brutalement, le réel. Le réel n'est pas représentable. Et c'est parce que les hommes veulent sans cesse le représenter par des mots qu'il y a une histoire de la littérature. Que le réel ne soit pas représentable, mais seulement démontrable, peut être dit de plusieurs façons. Soit qu'avec Lacan, on le définisse comme l'impossible, ce qui ne peut s'atteindre et échappe au discours, soit qu'en termes topologiques, on constate qu'on ne peut faire coïncider un ordre pluridimensionnel, à savoir le réel, et un ordre unidimensionnel, à savoir le langage. Or, c'est précisément cette impossibilité topologique à quoi la littérature ne veut pas, ne veut jamais se rendre. Et de ce qu'il n'y a point de parallélisme entre le réel et le langage, les hommes ne prennent pas leur parti. Et c'est ce refus, peut-être aussi vieux que le langage lui-même, qui produit, dans un affairement incessant, la littérature. On pourrait très bien imaginer une histoire de la littérature, ou pour mieux dire des productions de langage, qui serait l'histoire des expédients verbaux, souvent très fous, dont les hommes ont usé pour réduire, apprivoiser, nier ou au contraire assumer ce qui est toujours un délire, à savoir l'inadéquation fondamentale du langage et du réel. Je disais à l'instant, à propos du savoir, que la littérature est catégoriquement réaliste, en ce qu'elle n'a jamais que le réel pour objet de désir. Et je dirais maintenant, sans me contredire, parce que j'emploie ici le mot dans son acception familière, qu'elle est tout aussi obstinément irréaliste. Elle croit censé le désir de l'impossible. Cette fonction, peut-être perverse, donc heureuse, a un nom, c'est la fonction utopique. Et nous retrouvons ici l'histoire. Car c'est dans la seconde moitié du XIXe siècle, à l'une des périodes les plus désolées du malheur capitaliste, que la littérature a trouvé, du moins pour nous, Français, avec Mallarmé, sa figure exacte. La modernité, notre modernité, qui commence alors, peut se définir par ce fait nouveau, qu'on y conçoit des utopies de langage. Nulle histoire de la littérature, s'il doit s'en écrire encore, ne saurait être juste qui se contenterait, comme par le passé, d'enchaîner des écoles sans marquer la coupure qui met alors à nu un nouveau prophétisme, celui de l'écriture. Changer la langue, mot mallarméen, et concomitant de changer le monde, mot marxien. Il y a une écoute politique de Mallarmé, de ceux qui l'ont suivi et le suivent encore. Il vient de là une certaine éthique du langage littéraire qui doit être affirmée parce qu'elle est contestée. On reproche souvent à l'écrivain, à l'intellectuel, au professeur, de ne pas écrire la langue de tout le monde. Mais il est bon que les hommes, à l'intérieur d'un même idiome, à savoir pour nous le français, aient plusieurs langues. Si j'étais législateur, supposition aberrante pour quelqu'un qui, étymologiquement parlant, vous l'avez vu, est anarchiste, loin d'imposer une unification du français, qu'elle soit bourgeoise ou populaire, j'encouragerais au contraire l'apprentissage simultané de plusieurs langues françaises, de fonctions diverses, promues à égalité. Dante discute très sérieusement pour décider en quelle langue il écrira le Convivio, en latin ou en toscan. Et ce n'est nullement pour des raisons politiques ou polémiques qu'il choisit la langue vulgaire. C'est en considérant l'appropriation de l'une et l'autre langue à son sujet. Les deux langues, comme pour nous le français classique et le français moderne, ou le français écrit et le français parlé, forment ainsi une réserve dans laquelle il se sent libre de puiser selon la vérité du désir. Cette liberté est un luxe que toute société devrait procurer à ses citoyens. Autant de langage qu'il y a de désir. Proposition utopique, en ceci qu'aucune société n'est encore prête à admettre qu'il y a plusieurs désirs. Qu'une langue, quelle qu'elle soit, n'en réprime pas une autre. Que le sujet à venir connaisse sans remords, sans refoulement, la jouissance d'avoir à sa disposition deux instances de langage, qu'il parle ceci ou cela, selon ses perversions, non selon la loi. L'utopie, bien entendu, ne préserve pas du pouvoir. L'utopie de la langue est récupérée comme langue de l'utopie, qui est un genre comme un autre. On peut dire qu'aucun des écrivains qui sont partis d'un combat assez solitaire contre le pouvoir de la langue n'a pu ou ne peut éviter d'être récupéré par lui, soit sous la forme posthume d'une inscription dans la culture officielle, soit sous la forme présente d'une mode qui impose son image et lui prescrit d'être conforme à ce qu'on attend de lui. Pas d'autre issue pour cet auteur, donc, que de se déplacer ou de s'entêter, ou les deux à la fois. S'entêter veut dire, en somme, maintenir envers et contre tout la force d'une dérive et d'une attente. Et c'est précisément parce qu'elle s'entête que l'écriture est entraînée à se déplacer. Car le pouvoir s'empare de la jouissance d'écrire comme il s'empare de toute jouissance pour la manipuler et en faire un produit grégaire, non pervers, de la même façon qu'il s'empare du produit génétique de la jouissance d'amour pour en faire à son profit des soldats et des militants. Et nous voici maintenant, en face de la sémiologie.